Alors, le don de l'Eucharistie, catéchisme eucharistique par le père Roberto Coggi, CO2GI, dominicain. Petit catéchisme eucharistique présenté par le cardinal Arinze, édité par l'Institut Saint-Clément Ier, aux éditions Parole et Silence, page 33, numéro 40. Comment pouvons-nous dire que notre Seigneur est réellement présent dans la Sainte Eucharistie? C'est possible grâce à la toute-puissance divine. Quand le prêtre prononce les paroles de la consécration, Dieu intervient avec sa toute-puissance et accomplit le changement, c'est-à-dire la transsubstantiation. Voyez-vous, c'est vraiment de toute puissance divine. La résurrection de Lazare, le recollement du cartilage et de la peau du serviteur du grand prêtre dont Saint-Pierre a coupé l'oreille. Voyez, il y a une dame qui m'a dit il faut un an pour qu'une oreille coupé, déchiré, arraché par un chien, en l'occurrence, puisse cicatriser. Donc les chirurgiens ont repris le bout d'oreille, ont cousu, mis le cartilage en face pour que le cartilage se remette bien en face. Il a fallu un an de cicatrisation. Jésus, une seconde. Vous voyez, c'est la différence, c'est la toute-puissance divine. Mais si nous réfléchissons bien, cela ne doit pas trop nous étonner. Si Dieu a tout créé à partir de rien, pourquoi ne pourrait-il pas changer une chose en une autre? Question 41. Mais les espèces ou apparences du pain et du vin, comment font-elles pour exister encore si leur substance a disparu? Si l'être même des grains de blé broyés, si l'être même du vin, le vin ça existe, si vous voulez. Chimiquement, le vin, c'est du vin. C'est un ensemble de fonctions alcool attachées les unes aux autres, avec de l'eau, enfin avec, comment dire, H2O, et c'est, si vous voulez, ça, une substance elle-même. Alors, les espèces ou apparences du pain et du vin, comment font-elles pour exister si leur substance a disparu? Eh bien, elles existent miraculeusement, puisque leur être n'existe plus. Si vous voulez, si vous buvez du vin, c'est du vin. Mais que l'être même du vin, c'est-à-dire l'identité des atomes, excusez-moi d'entrer dans des détails pareils, n'existe plus, alors qu'il y a toujours l'enivrement possible, la couleur du vin. Mais ce n'est pas du vin, voyez. Mais c'est pas possible, voyez. Du pain, mais ce n'est pas du pain. Il a les propriétés extérieures du pain, mais l'être même profond n'est pas du pain. Voyez-vous, ça fait sourire, mais pourtant, dans l'imagination humaine, on fait parler des meubles, on fait parler des objets. L'être même d'une tasse à thé n'est pas de sourire et de parler, voyez. Et bien pourtant, dans les dessins animés ou dans des contes, vous avez des êtres inanimés ont-ils une âme, voyez. Vous avez la réponse dans la question, inanimé, voyez, il n'y a pas d'âme. Eh bien, Dieu, lui, va donner son existence et sa substance dans ce qui, matériellement, ressemble à du vin ou à du pain. Pour nous éviter de le manger, en vérité, l'accusation des païens d'anthropophagie par rapport à l'Eucharistie. Et ainsi, il développe tout une symbolique, parce qu'il choisit quelque chose qui se mange. et qui ne nous empoisonne pas. Et il choisit quelque chose qui est simple à manger. Du pain et du vin sont simples à manger. Jésus quitte le ciel pour venir se trouver sous les espèces du pain et du vin. Mais non, Jésus ne quitte pas le ciel et pourtant il est réellement présent sous les espèces du pain et du vin. Et ça, c'est le propre de Dieu, hein. C'est l'ubiquité divine. Il est à la fois au ciel et il est à la fois dans tous les tabernacles du monde. Oui. Mais comment cela est-il possible? Décidément, ils insistent, hein. C'est un incrédule qui pose toutes ces questions. C'est justement la transsubstantiation qui rend ce fait extraordinaire possible. En effet, le pain et le vin deviennent ce corps et ce sang qui sont au ciel. Ils deviennent Jésus en personne, vivant et vrai, qui est assis à la droite du Père. Mais la personne humaine de Jésus vient avec ses deux natures à chaque fois qu'il est quelque part. Donc il y a vraiment son corps, il y a vraiment son sang, il y a vraiment son âme. Je vous avais dit que si vous voulez, dans la nuit du vendredi saint au matin de Pâques, il n'y a pas l'âme dans le corps et le sang de Jésus au tombeau. Mais le corps et le sang de Jésus au tombeau ne se décomposent pas, malgré l'absence d'âme, parce qu'il y a l'esprit divin. Vous voyez ? Mais la personne divine du Christ est dans le corps et ce qui reste du sang, dans le tombeau. C'est-à-dire qu'on aurait pu adorer le corps de notre Seigneur avec sa personne divine présente dans le tombeau. Il n'a pas abandonné son corps, ce n'était pas un cadavre, c'est-à-dire un tas de matière, un tas d'atomes. Vous voyez ? Ensuite, ça c'est une finesse théologique affirmée par l'Église. Hein. Jamais le corps de Jésus n'a été un cadavre. Il y a toujours eu sa personne divine. Par contre, il n'y avait pas son âme, parce qu'il était mort. Alors son âme, avec la personne divine, est descendue aux enfers. Et donc vous avez dans l'exposition Fra Angelico qui est en ce moment dans la paroisse Saint-Eugène, une très belle peinture de la descente de Jésus aux enfers. Parce que vous avez Jésus qui est représenté avec un corps et les âmes des patriarches et de tous les justes de l'Ancien Testament et de tous les continents d'ailleurs, toutes les âmes qui se sont sauvées avant Jésus, sont représentées avec un corps pour qu'on puisse les voir. Si on représente des âmes, vous êtes rien. Vous voyez, c'est comme la peinture contemporaine abstraite. Hein. Je vous présente un tableau blanc et je vous dis, vous voyez, regardez, ce sont les âmes des limbes des patriarches. Et, je ne peux pas vous les dessiner. Ce sont des âmes, ce sont des purs esprits, il n'y a pas de matière. Donc regardez, voilà. Et alors, Frère Angelico aurait eu moins de succès avec une fresque blanche en disant, sur la droite, c'est Jésus, ouais. Et là, c'est Adam, Ève, Abraham. Enfin, oui. C'est le point blanc, oui. Là, ça, c'est le bon larron. Un peu marron, là, parce que lui, il évite le purgatoire de justesse. Donc, le Christ descend dans les parties inférieures de la terre où se trouvent les âmes. Vous voyez ? Alors vous allez me dire, les âmes sont quelque part, ce sont de purs esprits. Là où elles agissent, là où elles pensent, elles sont sous la terre. Les enfers, les lieux inférieurs, c'est ça les enfers. Et juste plus profondément, il y a l'enfer, où les âmes sont dans le magma terrestre et dans le feu, et ils sont unifiés par le feu. Elles sont brûlées, alors même qu'elles n'ont plus de corps, mais l'âme est au contact du feu comme notre âme est au contact des atomes de notre corps. Donc elles sentent le feu. Et les démons, qui sont de purs esprits, sont unis au feu de l'enfer. Ils sont unifiés. Et là, donc, le Christ descend, leur annonce sa prochaine résurrection et leur prochaine libération. Eux ne sont pas au purgatoire.
y a l'enfer, le purgatoire, ces âmes ont-elles reçu la visite de l'âme du Christ? On ne sait pas. Je ne pense pas. Mais ceux qui auraient dû être au ciel et qui sont morts saintement ou qui sont sortis de l'état de regret du purgatoire, eux attendaient encore, étaient sans souffrance et dans une très grande, un très grand désir de voir Dieu. Et quand ils ont vu, voyez, un des premiers à avoir son fils, c'est Joseph. Imaginez Joseph qui voit son fils en âme, mais Joseph est aussi en âme, mais son corps, suivant une très belle tradition, ne s'est pas décomposé. Et il fait partie des justes qui ont ressuscité et qui sont apparus le dimanche de Pâques. Puisque saint Matthieu nous dit qu'il y a des justes qui ont ressuscité et qui sont apparus dans la cité sainte. Saint Joseph est certainement ressuscité. L'âme de saint Joseph a été remise dans son corps. Est-ce que pendant ces 3 ans, Jésus a permis que le corps de son père adoptif se décompose? Vu que sainte Bernadette, son corps s'est pas décomposé, ou Padre Pio, je vois pas vraiment notre Seigneur laisser le corps de son père adoptif, à mon avis. Voilà. Mais là, on est dans la théologie fiction, pieuse, mais qui n'est pas négligeable puisqu'on n'a aucune relique de saint Joseph. On n'a pas son corps. Et donc Jésus, lui, ressuscité, eh bien il est dans son intégrité, il y a sa divinité, son corps, son âme, son sang, recréé, toute une partie de son sang a été recréée. Vous avez des pieuses considérations qui disent que les anges sont partis récupérer les globules morts, les globules atrophiés ou détruits du Christ un peu partout. Il faut faire attention de ne pas trop... Comment dire, imaginer non plus, mais bon, la piété populaire est toute puissante et c'est elle qui nous sauve souvent. Ce n'est pas Jésus qui change ou qui quitte le ciel, mais ce sont le pain et le vin qui, grâce aux paroles de la consécration, deviennent ce même Jésus qui est au ciel. Question 44. Donc, dans le tabernacle se trouve le même Jésus qui est au ciel. Tout à fait. Jésus est présent dans le Saint-Sacrement comme il est présent au ciel. Avec la différence cependant que dans le Saint-Sacrement, il est présent sous les espèces, sous les apparences du pain et du vin, et donc il n'est pas visible avec les yeux. Sauf miracle eucharistique, hein, où Jésus se rend présent sous une apparence humaine, ou sanglante, ou de chair, hein, mais on le verra plus tard. N'est-il pas merveilleux de penser que dans le tabernacle se trouve le même Jésus que celui qui est assis à la droite du Père? C'est merveilleux. Et cela montre tout l'amour que nous porte Jésus, en voulant rester réellement et physiquement présent au milieu de nous, de sorte que nous pouvons toujours le rencontrer. Mais c'est assez aride, c'est sec, il ne nous parle pas et pourtant il est là. Il est bien là. Alors ceux qui relativisent l'adoration eucharistique disent « Oui, mais enfin, il y a des siècles où il n'y avait pas de tabernacle ». On réservait les hosties aux malades, aux mourants et aux persécutés, à ceux qui allaient être livrés au lion et qui étaient en prison. Oui, mais ça veut bien dire qu'on gardait la sainte hostie après la messe pour amener le Christ à ceux qui allaient être martyrisés. L'histoire de saint Tarsicius est très importante pour répondre à ceux qui relativisent le culte eucharistique. Et pendant ces siècles de persécution, je peux vous assurer que le temps de la messe, les personnes adoraient, hein, les fidèles adoraient le Christ présent sur l'autel. C'est merveilleux et cela montre tout l'amour que nous porte Jésus en voulant rester réellement et physiquement présent au milieu de nous, de sorte que nous pouvons toujours le rencontrer. Mais nous oublions trop souvent ces choses et nous rendons peu visite à Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Vous avez un peu de temps, vous passez devant une église, ben entrez dans cette église et recueillez-vous devant le Saint-Sacrement si vous arrivez à le trouver. Et de nos jours, En règle générale, il est un peu plus central dans l'Église. Fut un temps où à Saint-Séverin, il était dans une chapelle, même il y avait une porte, il n'était pas dans l'Église elle-même. Hein. Jusqu'à quand Jésus reste-t-il présent sous les espèces eucharistiques? Jésus reste présent tant que ses espèces, ses apparences, se conservent et gardent les apparences du pain et du vin. C'est pourquoi lorsque nous avons reçu l'hostie sainte, Jésus reste présent en nous tant que les espèces eucharistiques ne sont pas assimilées et donc détruites par notre organisme. Normalement, les espèces eucharistiques durent environ un quart d'heure après la communion. On raconte à ce propos que saint Philippe Néri fit rattraper quelqu'un qui sortait aussitôt de l'église par deux enfants de chœur munis de chandelles allumées. Oui. On l'avait vu ça, je crois. Page 47. Jésus est-il également présent, question 47, dans un petit fragment d'hostie? Oui. Jésus est présent tant que le fragment, même s'il est petit, garde les apparences du pain. À ce sujet, si nous avons choisi de prendre la communion dans la main, puisque si on veut, on peut la prendre directement dans la bouche, c'est pas seulement si on veut. C'est une, si vous voulez, c'est la coutume maintenant principale et qui est devenue secondaire. Mais si vous voulez, par respect pour à travers les siècles, si vous voulez, comme il y a eu un manque de respect et une mise en cause de la présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, eh bien du coup, on a augmenté les actes de vénération. Vous voyez. Si dans les premiers siècles on communiait dans la main, parce qu'on recevait le pain, si vous voulez, du repas pascal, mais c'était le corps de notre Seigneur, vous aviez différentes marques de respect qui ont augmenté avec le temps et avec la diminution de la ferveur. Je ne sais pas si en 2017 nous sommes aussi fervents que les premiers chrétiens. Mais en soi, c'est vrai que il y a des personnes extrêmement pieuses qui reçoivent notre Seigneur, justement comme dit, je ne sais plus, saint Basile ou autre, présente le trône pour le roi des rois, hein, et de ta main gauche et de ta main droite communie, et considère toute parcelle comme une poussière d'or. Il faut faire attention et bien regarder qu'il ne reste pas un petit fragment dans la paume de la main. Si c'est le cas, il faut également porter celui-ci à la bouche. Il faudrait avoir beaucoup plus de respect envers la Sainte Eucharistie. Question 48. Quand on rompt l'hostie, rompt-on également le corps de Jésus? Non, ce sont seulement les apparences eucharistiques qui se rompent. Je vous avais dit que la fraction de l'hostie pouvait signifier aussi la passion. Comment cela est-il possible? C'est possible parce que Jésus est présent entier dans chaque partie de l'hostie consacrée. C'est pourquoi même si on en sépare une partie, celle-ci contient Jésus tout entier. Selon les paroles de la consécration, sous l'espèce du pain, il devrait y avoir que le corps et sous l'espèce du vin que le sang. Là, il faut faire attention. Il est vrai que les paroles de la consécration rendent directement présent le corps sous l'espèce du pain et le sang sous l'espèce du vin. Ça, on l'avait vu. Mais il ne faut pas oublier que en Jésus qui est vivant au ciel, le corps et le sang sont unis d'une façon inséparable. Or, dans l'Eucharistie, c'est Jésus vivant et vrai qui est présent. Sous l'espèce du pain, en même temps que le corps, il y a donc nécessairement aussi le sang. Et là où il y a le sang, il y a aussi nécessairement le corps. Il s'agit là d'une présence, pour ainsi dire, indirecte. Indirect, le mot est maladroit. Hein, qui est appelée présence par concomitance. C'est trop compliqué. Tout simplement, Jésus est là. Donc, mais, si vous voulez, la parole de la consécration, c'est pour signifier et rendre présent la mort de Jésus. Donc le corps est d'un côté et le sang est de l'autre, par les paroles de la consécration, pour signifier la mort. On perd son sang sur la croix, on meurt. Et donc... Et donc, voilà qui est bien clair, mais notre Seigneur est vivant. La présence du sang accompagne la présence du corps, et la présence du corps accompagne la présence du sang, et toujours par concomitance, là où sont présents le corps et le sang, sont présentes aussi l'âme et la divinité. Nous devons donc dire que sous l'espèce du vin, tant que sous l'espèce du vin, c'est Jésus tout entier qui est présent, corps, sang, âme et divinité. Alors, qu'est-ce que la Sainte Messe? Question 51. La Sainte Messe est l'Eucharistie considérée comme sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice est l'offrande d'une victime faite à Dieu par le prêtre en notre nom. Alors la définition est extrêmement précise, hein. Elle est remarquable, hein. Le sacrifice est l'offrande, on donne quelque chose, d'une victime, c'est-à-dire elle est donnée totalement, elle s'abandonne cette victime. Victime faite à Dieu, donc si vous offrez un mouton, ben, le mouton il est offert, il ne va pas continuer sa vie de mouton. Si vous offrez du pain, eh ben on va le manger. Si vous offrez de l'huile, eh ben on va la consommer ou on va l'offrir. Si vous offrez de l'encens, eh ben on va le brûler. Oui, l'encens c'est une victime aussi, c'est une certaine victime. Et c'est quand c'est une personne que ça devient une grande victime. Et l'offrande d'une victime faite à Dieu par le prêtre, donc par celui qui est choisi pour faire le pont entre le ciel et la terre, en notre nom, voyez, comme signe de notre soumission à lui. Alors là, c'est très sévère et très... Pourtant, c'est pas un catéchisme traditionnel, entre guillemets, mais ce sont les termes les plus théologiquement purs. Soumission, mais pas au sens... de peur de Dieu. C'est... Les mots de nos jours sont tous piégés, hein, plus ou moins. Être soumis à quelqu'un, c'est le reconnaître comme ayant une autorité pour le respecter, pour ne pas aller contre. Voyez, c'est... Et comme acte de remerciement. Donc là, vous reconnaissez les quatre fins de la prière. L'adoration, reconnaître qu'il est le Tout-Puissant. Soumission, acte de remerciement, rendre grâce, le remercier d'avoir la vie et tout ce qu'il nous a donné, d'expiation de nos péchés, donc le regret des péchés contre ses grâces, et de demande de grâce nouvelle. C'est les quatre fins de la prière. Voyez. Eh bien, la messe l'accomplit totalement, cette prière. Nous disons que la mort de Jésus en croix est un sacrifice parce que Jésus s'est offert lui-même comme victime en expiation de nos péchés. C'est pourquoi dans le sacrifice de la croix, Jésus est en même temps le prêtre, c'est-à-dire celui qui offre le sacrifice, la victime, c'est-à-dire ce qui est offert. C'est assez impressionnant. Le sacrifice de la croix est le sacrifice fondamental et central de toute notre religion chrétienne. Il substitue et abolit tous les sacrifices qui avaient été offerts dans l'Ancien Testament avant la venue de Jésus. Il ne n'est plus permis d'offrir autre chose. Du pain, du vin, de l'huile, des moutons, c'est plus possible. Parce que Jésus est l'agneau, est le bouc émissaire, il est le pain, il est le vin, il est l'huile, il est tout. C'est la seule offrande pure que nous puissions offrir à Dieu. Petit commentaire sur la gauche. Alors, donc, page 38, question 53. Vous avez la petite représentation. Vous avez le sacrifice sanglant de la croix et le même sacrifice non sanglant que celui qui s'accomplit pendant la Sainte Messe. Il manque un E. Question 54. 53. Pourquoi y a-t-il alors le sacrifice de la messe s'il y a déjà eu le sacrifice de la croix? Grande objection, finalement, de Luther. Mais pourquoi Luther ne veut pas que la messe soit un sacrifice? Parce qu'il ne veut pas entendre à nouveau cette idée que Jésus meurt pour lui et que c'est actuellement ce à quoi il assiste. Pourquoi? Il se sent tellement pécheur. Il veut laisser au Vendredi Saint le sacrifice et qu'il ne faut pas que ce sacrifice soit trop trop proche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était il y a 2000 ans, tout va bien. Voilà. Mais qu'on s'approche du Dieu Tout-Puissant et que le Vendredi Saint soit actualisé par la messe, là, ça lui fait trop peur, en fait. Il se sent trop pécheur. Le problème de Luther, c'est la peur de se damner, hein. Il pense qu'à ça, quoi. Et à la fin, voyez-vous, les protestants, ils pètent un plomb, ils disent, ben, on en a marre de penser si on se damne, si on se damne pas, et du coup, ce seront les premiers à dire, ben, tous se sauvent. Et alors, du coup, poup, vous retirez le problème, ça c'est vrai. Voilà. Quoi que je fasse, je suis sauvé. Voilà. Et Luther avait déjà pris cette conclusion, mais il avait quand même encore un sens du péché. Ben les protestants, certains protestants actuellement, parce que tous les protestants ne sont pas relativistes, hein, il y en a qui sont le plus sérieux possible actuellement. Enfin, ceux qui sont relativistes, ben, tout le monde se sauve, quoi. De toute façon, on ne sait pas, et puis voilà. Mais comme Dieu est bon, ben, il n'y a pas de problème, quoi qu'on fasse. Hein. Bon. Question 53, pourquoi y a-t-il alors le sacrifice de la messe s'il y a déjà eu le sacrifice de la croix ? La messe sert justement à rendre présent pour nous le sacrifice de la croix. Le sacrifice qui s'est déroulé sur le calvaire à Jérusalem il y a 20 siècles est rendu mystérieusement présent ici et maintenant toutes les fois qu'on célèbre la messe. Vous voyez ? Donc c'est vrai que quand vous sortez les banjos et tout ça, il faut faire attention. Il faut avoir le courage de se dire, au pied de la croix, j'aurais sorti les banjos. Hein, et, oh, alléluia, alléluia, super, super. La Vierge Marie, chut, moins fort. Vous voyez, c'est pour ça qu'à la consécration, normalement, on se recueille. C'est pourquoi nous disons que la messe est le mémorial du sacrifice de la croix. Non, mais mémorial, c'est le problème, c'est le mot mémoire. Hein. C'est un souvenir. Mais pas seulement. Dans la messe, Jésus s'offre encore au Père, rendant à nouveau présente l'offrande faite sur la croix. Ainsi, en participant à la Sainte Messe, nous recevons le fruit de la passion de Jésus. Question 54. Donc la messe est quelque chose d'important. Ah, c'est béotien comme question. Hein. La messe, est-ce qu'il y a de plus important dans toute notre vie chrétienne ? Car il n'y a rien de plus important que la mort en croix de Jésus qui nous a valu le salut éternel et nous a ouvert les portes du paradis. La messe qui nous procure les fruits de la mort en croix de Jésus est donc ce qu'il y a de plus important et de plus beau sur cette terre. Ça veut dire que la fin des temps arrivera uniquement lorsqu'il n'y aura plus de messe. Ou pas assez. Plus. Donc, je vous assure que c'est pas un chantage que font les prêtres pour être sûrs d'avoir des gâteaux d'anniversaire et des presbytères. Parce que eux-mêmes ne sont pas pressés de mourir. Vous voyez ? Or, c'est ça aussi. La fin des temps, c'est quelque chose qui nous fait un peu peur quand même, comme la fin de notre temps, qui est la mort. Question 55. Mais est-ce que la résurrection de Jésus n'est pas importante elle aussi ? C'est la querelle, si vous voulez. La messe, sacrifice, et la messe, repas, Jésus ressuscité et vivant. Et c'est les deux. Alors c'est sûr que dans la forme extraordinaire du rite romain, l'insistance sur le sacrifice et sur le grand respect de la présence de notre Seigneur ressuscité est plus prégnante que dans une célébration où on va vite passer sur la consécration en disant plutôt des paroles comme si c'était un repas. Et donc on dit aux jeunes prêtres de ne pas s'arrêter pour les paroles de la consécration, de les dire tout d'un trait. Il prit le pain, rendit grâce et dit « Ceci est mon corps livré pour vous. » Eh oui, mais voilà, c'est pas des paroles magiques. Eh bien, ce sont pas des paroles magiques, ce sont des paroles miraculeuses. Donc, au moment de les prononcer, on s'arrête et on se recueille. Et donc, vous avez des prêtres qui vont se recueillir avant les paroles de la consécration. Il y a une toute petite rubrique quand même qui a été maintenue, on dit « il s'incline ». au moment de dire les paroles. Donc si vous dites le récit de l'institution sans vous incliner sur les paroles et donc séparer le récit avant, après, de la consécration elle-même, eh bien, il y a un problème, il y a un vrai problème. Hein, c'est... Question 55. Certainement, mais Jésus est ressuscité parce qu'il est mort d'abord. Ouh là là, quelle réponse redoutable. C'est là qu'on voit que ce n'est pas un catéchisme traditionnel, c'est un catéchisme de résistance. Parce que la manière dont c'est écrit de manière avec du culot, si vous voulez. Le père, comment dire, le père Oji, Koji, C-O-2-G-I, réfléchissez, Koji, Gwetfuji, tout ça, qui est le père Koji? Certainement, mais Jésus est ressuscité parce qu'il est mort d'abord. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Jésus est ressuscité, eh bien parce qu'il est mort d'abord. Donc on peut pas faire abstraction de la mort. On peut pas mettre que des croix. Faut mettre des crucifix avec le corps qui est représenté sur la croix. Ah oui, mais non, tout ça, ça nous rappelle les choses tristes et tout. Ben oui, ben c'est triste. Mais il faut s'en rappeler aussi quand même. Et l'expiation de nos péchés est advenue sur la croix. Dans la messe, la résurrection trouve-t-elle également sa place? Mais oui, rassurez-vous, la résurrection aussi joue un rôle dans la messe. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, ben, il ne pourrait pas y avoir de sainte messe. Et pourquoi? Pense aux paroles de la consécration. Le prêtre ne dit pas « Ceci est le corps de Jésus », mais il dit « Ceci est mon corps ». Il ne dit pas « Ceci est le sang de Jésus », mais « Ceci est mon sang ». Cela signifie que celui qui prononce vraiment ces paroles est Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est pour ça que vous avez diacre sous diacre, l'encens, tout le monde à genoux. Voilà, c'est quand même Jésus. Oui, mais il était beaucoup plus simple, il était très gentil, il mangeait au McDo avec tout le monde. Ben, pas vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, il dit... Vous m'appelez Seigneur et je le suis. Et quand il ressuscite Lazare, Saint-Pierre lui a pas tapé sur l'épaule après en disant « Waouh !» Vous voyez, et quand notre Seigneur a multiplié les poissons, Saint-Pierre il s'est mis à genoux. Il n'a pas dit « Super, on va faire des affaires !» Il a vu des poissons qu'il a dans des conditions impossibles de pêche et donc il s'est mis à genoux en disant « Je suis un pêcheur, voilà, toi tu es un prophète, tu es un homme de Dieu, mais moi je peux pas. » Jésus consacre lui-même le pain et le vin en se servant du prêtre qui, pour ainsi dire, prête à Jésus sa bouche et ses mains. Il est arrivé de nombreuses fois que certains saints, au moment de la consécration, aient vu Jésus en personne à la place du célébrant. Nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il en est ainsi parce que notre foi nous le dit.